Radio Okapi. Le journal de Grâce Amzati Masanzi.
Le pape Léon XIV salue le comportement de Floribert Bwanatsuyi de résister à la corruption enracinée dans la mentalité courante en tant que jeune. Le souverain pontife s'est exprimé ainsi hier au lendemain de la béatification du Congolais Bwanatsuyi. La démission du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est toujours attendue après sa mise en accusation autorisée dimanche par l'Assemblée nationale. Accusé d'un détournement présumé de 19 millions de dollars américains, Constant Mutamba est interdit même de sortir de la ville de Kinshasa. Journée de l'enfant africain le 16 juin. Nous recevons comme invité le chef de projet de l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère, Pami Ansig. Jean-Marie Negoura parle des défis de protection des enfants dans ce contexte de crise sécuritaire et économique actuelle dans la province du Nord Kivu. Bonjour à tous. D'où un jeune homme pouvait-il tirer la force de résister à la corruption enracinée dans la mentalité courante et capable de toutes les violences? Floribert était convaincu que nous étions nés pour faire des grandes choses, pour marquer l'histoire, pour transformer la réalité. C'est la déclaration du pape Léon XIV au lendemain de la béatification du Congolais Floribert Bwanatsuyi. Il recevait hier lundi à Rome, en audience, les pèlerins venus pour cet événement. Pour le pape, le choix de garder les mains propres pour les fonctionnaires de la douane qui était Bwanatsuyi mûrit dans une conscience formée par la prière et la communion avec les frères. L'évêque de Rome espère que la béatification de Bwanatsuyi va contribuer au retour de la paix dans les Kivu. Il est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Être honnête, c'est répandre la lumière de Dieu. C'est vivre la béatitude de la justice. Vaincre le mal par le bien. La force de Floribert a grandi dans la fidélité à la prière et aux pauvres. Il était un homme de paix dans une région aussi souffrante que le Kivu, déchirée par la violence. Il menait son combat pour la paix avec douceur, en servant les pauvres, en pratiquant l'amitié et la rencontre dans une société déchirée. Ce jeune homme, jamais résigné au mal, avait un rêve nourri par les paroles de l'Évangile et la proximité du Seigneur. En dépit de tout, il exprimait sa confiance en l'avenir. Puisse la paix, tant entendue, par l'intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Floribert, advenir bientôt au Kivu, au Congo et dans toute l'Afrique.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, les combats opposant les rebelles de l'AFCM-23 aux combattants du collectif des mouvements pour les changements se poursuivent ce mardi dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources locales, plusieurs villages des groupements Bambo, Bukombo et Tongo sont touchés par ces combats. Du coup, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus dans cette zone. Des dizaines d'entités sont à présent vidées de leurs habitants. Les détails avec vous, Étienne Lissumbu.
Ces combats se concentrent ce mardi dans le village de Kanyansi, en groupement Tongo et dans celui de Kijungu, près de la paroisse de Birambinzo, groupement de Bukombo, chefferie de Buito. Pour les sources locales, dans le village de Kanyansi, une structure de santé qui prenne en charge les Wazalendo CMC aurait été incendiée ce mardi matin par les rebelles FCM-23. Un notable local aurait également été interpellé. Rappelons que c'est depuis le matin, hier lundi, que des violents affrontements opposent le rebelle du mouvement FCM-23 aux combattants du collectif de mouvement pour les changements CMC. C'était d'abord sur les collines Bumbasha et Bunkuba dans les villages Mouchebere et Katiri. C'est environ 10 km de Mouesso dans le groupement Bukombo, chefferie de Buito. Des crépitements de balles ont notamment été entendus à Kagando et Mouti dans le groupement de Bambo. Une situation qui panique la population contrainte à fuir, notamment en direction de Mouesso dans les territoires voisins de Massissi et vers les centres de Bambo, rapportent nos sources. Elles ajoutent qu'au moins 18 maisons d'habitation aurait été incendié à Mouchebere. C'est depuis la semaine dernière que des combats sont rapportés presque chaque jour dans cette partie de la province du Nord Kivu où les groupes Wazalendo sont de plus en plus actifs malgré l'occupation précaire par les rebelles du M23.
Et au sud Kivu voisin, dans les territoires de Kabare, la population vague timidement ses activités ce mardi après les affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFCM-23 samedi et dimanche dernier. Les activités scolaires ont repris ce matin à l'Institut Kamole, tandis que les 5 autres écoles environnantes comptent reprendre demain. Les élèves ainsi que les enseignants ont encore à l'esprit la scène macabre des combats qui se sont déroulés dans la concession de leurs établissements scolaires. Sami Moulemangabo de la société civile de Kabare revient sur la situation
qui prévaut aujourd'hui sur les lieux.
Par rapport à la situation à Kabare Centre dans l'ensemble, il y a un calme précaire qui s'observe. Les activités scolaires n'ont pas repris normalement, pas assez. Si la situation ne pourrait pas se dégrader, les cours pourraient reprendre normalement. Mais il y a une circulation timide sans doute, d'autant plus qu'il y a eu des affrontements récents le dimanche dans l'entité. La population est sur les qui-vive, parce que dans certains endroits, ce sont le mouvement de M23 et dans les zones périphériques, beaucoup plus du parc et environ, ce sont les Ouazalendo qui occupent les zones depuis un temps. Il y a la peur qui est toujours visible. De l'autre côté, vers Amsar, il a été rapporté 4 corps sans vie, visiblement tués sur place à Amsar, emballés dans le sac et jetés dans le lac Kivu, route Bukavu-Mudaka.
Et en plus bref, le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation basée à Butembo dans le Nord Kivu, s'est dit profondément préoccupé par la situation des enfants dans l'Est du pays. Dans un communiqué publié ce lundi à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin, son coordonnateur, Maître Mwindo Asivinyo, dénonce l'impuissance des autorités congolaises et le silence de la communauté internationale face aux violations persistantes des droits des enfants, notamment leur enrôlement dans des groupes armés et leur exposition à la mendicité. Le REDO exhorte le gouvernement congolais et ses partenaires à rétablir la paix dans les zones en conflit, condition essentielle à la protection effective des droits des enfants. Entre-temps, en Ituri, plus de 700 000 enfants sont affectés par les conflits armés depuis 2017, surtout dans les territoires de Djougou et d'Irumu. La plupart de ces enfants installés dans des sites vivent dans des conditions difficiles et ne vont pas à l'école. C'est le constat fait hier lundi par la coordination de la société civile de l'Ituri à l'occasion, bien entendu, de la Journée internationale de l'enfant africain. Cette structure demande au gouvernement et à ses partenaires de garantir les droits de ses enfants en vue de sauver leur avenir. Radio Kapi à Bounia, Isaac Raymond.
Ces enfants sont disséminés dans plus de 60 sites de déplacés. D'autres sont dans des familles d'accueil ou traînent dans les rues, notamment à Bounia, chef-lieu de la province, et à Komanda. Ils manquent de tout, vivres, soins médicaux, habits. La plupart ne vont pas à l'école depuis 7 ans. Pour la coordination provinciale de la société civile, cette journée dédiée aux enfants africains doit interpeller toutes les institutions nationales et internationales à se pencher sérieusement sur la situation de précarité des enfants à l'est de la RDC, mais surtout de trouver des solutions durables, entre autres, arrêter les violences armées qui perdurent. C'est l'envie de leur offrir un environnement qui contribue à leur épanouissement général. Dieudonné Lossa.
Beaucoup d'enfants se trouvent dans des situations médiocres que le monde entier reconnaisse la souffrance de ces enfants et trouve la solution pour que ces souffrances soient arrêtées. Nous avons besoin d'appui des pays partenaires à la RDC, des communautés internationales, afin de nous aider à arrêter les violences pour permettre à ces enfants de revenir dans les villages, leur donner la chance de retrouver le chemin de l'école et aussi de vivre dans les conditions adéquates.
De nombreux enfants sont utilisés dans les groupes armés ou dans des carrières minières, ce qui constitue une violation de leurs droits, ajoute la même source. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous l'avons dit dans les titres, dans l'affaire des détournements de 19 millions de dollars, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'a toujours pas déposé sa démission auprès de la première ministre, chef du gouvernement, en dépit de sa mise en accusation autorisée dimanche par l'Assemblée nationale. Mais il nous revient de son cabinet que sa lettre de démission serait déjà prête et qu'il reste légaliste. En attendant l'envoi en fixation de son dossier devant la Cour de cassation pour un procès, le procureur général près la Cour l'interdit de sortir de la ville de Kinshasa à travers sa correspondance adressée à la Direction générale des migrations. Il attaque également certains actes déposés antérieurement par le ministre. Jeff Ngoy nous fait le point.
Conformément aux dispositions des articles 166 alinéa 3 de la Constitution et 80 alinéa 2 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, tout membre du gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire. Maintenant, selon certains analystes, dans la prophylaxie politique ou criminelle, il est conseillé d'empêcher une personne de surcroît un ministre qui fait l'objet de poursuites de ne plus avoir la mainmise sur la chose publique. La personne elle-même par honneur peut démissionner. Avant de se déclarer malade, le ministre accédait encore à son cabinet, mais sans participer au conseil des ministres. Par ailleurs, le procureur général lance des recherches actives des détenus illégalement libérés par Mutamba et qu'il qualifie des évadés de prison. Selon Firmin Vonde, des nouvelles alarmantes lui parviennent, faisant état de la circulation en hommes et femmes libres de beaucoup de détenus censés se retrouver dans différentes prisons du pays. C'est hors la loi, dont la plupart sont incriminés de meurtre, torture et vol à main armée, devront être remis sous les verrous, d'après le procureur.
Jeff Ngoy, revenons un instant au Nord Kivu, où un atelier de formation à la lutte contre le financement du terrorisme s'est ouvert ce mardi dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. Organisé par la section d'appui à la justice de la MONUSCO, cet atelier de 11 jours vise à renforcer les compétences des 10 magistrats, inspecteurs de police judiciaire et agents des services de sécurité pour identifier, enquêter et poursuivre efficacement les circuits de financement du terrorisme. À l'ouverture, Ghislain Towé, coordonnateur de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Beni et représentant du chef du sous-bureau, a souligné l'importance de cette formation dans une région marquée par les actions des rebelles des ADF. Ses propos sont recueillis par Martial Papi Mukeba.
Le financement du terrorisme est devenu une menace transnationale, insidieuse, facilitée par des outils technologiques modernes, des plateformes numériques et des circuits informels échappant au contrôle traditionnel. Dans ce contexte, la réponse judiciaire se doit d'être résolue, structurée et résolument tournée vers l'efficacité. Il ne suffit plus de réprimer les actes terroristes. Il est impératif de démanteler les mécanismes de financement qui les rendent possibles. Cela exige de notre part une compréhension fine des flux financiers suspects, une capacité à collaborer avec des institutions nationales et internationales et une vigilance constante face à l'évolution des méthodes de contournement utilisées par les réseaux terroristes. C'est dans cette optique que s'inscrit cette formation, dans le respect des droits et standards internationaux.
Cette série de formations qui concerne 30 acteurs judiciaires de Beni, Bunia et Kinshasa se poursuivra à Kinshasa par une session finale dédiée à la formation des formateurs. Elle est dispensée par deux experts de la MONUSCO spécialisés en analyse criminelle et investigation numérique. Nous sommes à Lubumbashi. 49 feuilles de cathode de cuivre volées ont été présentées hier au commissaire provincial de la police du Haut-Katanga. Ces cathodes de cuivre ont été volées par des coupeurs de route dans la cité minière de Kakanda, province du Lualaba. Elles sont souvent acheminées vers Kasumbalesa en passant par les villes de Likasi et Lubumbashi pour être vendues. La police souligne que le vol de ces substances minérales est récurrent ces derniers temps dans cette partie du Grand Katanga. Paul Emunanga.
Le chef des bureaux renseignements généraux de la police des mines et des hydrocarbures à Lubumbashi qui a intercepté cette cargaison de feuilles de cathode de cuivre indique que la police a été alertée du détournement d'un long camion trac transportant des substances minérales et ce camion appartenant à la société Kambov Mining a été détourné par des coupeurs de route dans les parages du village Tumbwe. La police a mené une enquête et est parvenue à récupérer le camion mais avec quelques feuilles de cathode de cuivre en moins. Elle est parvenu à intercepter finalement un minibus des substances minérales volées. Le commissaire supérieur adjoint Philippe Mutombo, chef des bureaux renseignements généraux de la police des mines et des hydrocarbures à Lubumbashi, explique les modes opératoires des voleurs.
Chaque fois que les véhicules empruntent ces axes, il y a des coupeurs de route qui les prennent et qui les amènent en brousse, là où ils arrivent à décharger frauduleusement les substances minérales. Et après, les véhicules sont récupérés soit sans charge. Dès qu'on décharge, on met dans des bus IAS, dans des voitures ProBox, et les véhicules rentrent facilement à Lubumbashi vers les opérateurs mafieux qui sont dans le secteur minier et qui les revendent peut-être vers Kasumbalesa et ailleurs.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Le port en eau profonde des bananes dans le Congo central sera livré dans un délai de 18 à 20 mois. Cette précision est donnée par Georges Rico, directeur général des DP World RDC, à l'issue de la rencontre hier entre le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, et une délégation de la société DP World. Cette délégation est venue faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du port en eau profonde des bananes. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de plusieurs responsables des DP World Afrique, dont le directeur général Afrique Sud subsaharienne ainsi que le directeur général des DP World RDC.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, c'est un nouveau gisement d'or des classes mondiales dont la société minière australienne Resolute Mining a annoncé ce 16 juin la découverte avec des réserves évaluées à 100 tonnes de métal jaune dans les sous-sols du département de Doropo à la frontière avec le Burkina Faso. La compagnie prévoit de commencer la construction début 2026 pour une durée de 2 ans. Des retombées économiques positives sont espérées pour cette zone du nord-est ivoirien, l'une des plus pauvres du pays.
L'invité.
C'est le chef de projet de l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère, PAMI en sigle. Jean-Marie Negoura parle des défis de protection des enfants dans le contexte des crises sécuritaires et économiques actuelles au Nord Kivu. Il fait cet état des lieux à l'occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Il revient aussi sur les efforts de son organisation et ses partenaires des Nations Unies dans l'encadrement des près de 800 enfants affectés par les conflits armés dans la province. Jean-Marie Negoura, dans cet entretien accordé à Bernard Denyangi.
Monsieur Jean-Marie Negoura, bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enfant africain. Pour vous, quelle est la valeur que vous accordez à cette journée?
Ça nous permet de sensibiliser les enfants pour continuer à lutter pour les droits des enfants, parce que certains enfants de l'Afrique du Sud ont été victimes de la réclamation des droits et on les a massacrés. C'était le 16 juin 1967. Et en date du 16 juin 1991, on a fait la première célébration. Ça nous permet encore une fois de dire aux enfants qu'ils ont des droits. Et aussi, il faut qu'ils puissent bien faire leurs devoirs pour que les droits aussi soient recouvrés.
C'est quoi le thème sur lequel vous êtes en train de...
Le thème international, c'est la planification des activités pour les droits des enfants. Et le thème national, c'est la budgétisation pour les projets visant à promouvoir les droits des enfants.
Pour vous, ce thème, vous l'analysez comment?
Nous devons impliquer les enfants dans la planification, dans la budgétisation, dans les listes des besoins des enfants pour que les ménages puissent planifier les dépenses en fonction de la liste des besoins des enfants.
Nous sommes au Nord Kivu. Pour vous, cette journée aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines particularités par rapport aux enfants que vous encadrez comme...
Affirmatif. D'habitude, on encadrait des enfants dans les temps normaux où il n'y avait pas de guerre, mais actuellement avec la situation de guerre, parce que même si on semble être dans la calmie, mais on est dans un régime qui paraît comme si on était dans la guerre, parce que avec la libération, avec le gouvernement qui est à Kinshasa, et nous sous un autre régime, c'est un signe qui ne présente pas la paix. Donc en temps de paix, il y avait des façons de célébrer cette journée, mais en ces temps où on n'est pas vraiment bien à l'aise, les banques fermées, les forces gouvernementales un peu éloignées, et les forces rebelles qui sont aussi dans ce qu'ils sont en train de faire, on ne parvient pas à bien célébrer la journée parce que même les moyens sont limités, même les bailleurs de fonds n'ont pas la facilité de nous superviser. Ce qui fait que même la journée n'est pas très bien célébrée comme les autres années.
Comme PAMI, vous encadrez aujourd'hui à peu près combien d'enfants affectés par les conflits armés?
En tout cas, nous encadrons beaucoup d'enfants. Des enfants de 2023, 2022, des enfants pour cette année, nous avons visé atteindre 800 enfants directement affectés par les conflits armés. C'est-à-dire 200 enfants au niveau de Walikale qui vont quitter le groupe armé, 600 enfants au niveau de tout le Nord Kivu qui se sont égarés des parents, et nous sommes sollicités pour chercher leurs parents et pour les joindre aux parents. Et nous, lorsqu'on retrouve l'enfant, on le remet à la famille, c'est une joie. Ça réduit un peu la misère, quoi.
En cette journée, vous avez un message particulier comme encadreur d'enfants?
Oui, un message particulier. Si les parents ont des enfants qui se sont égarés, qu'ils viennent faire la vie de recherche chez PAMI, nous cherchons les enfants et nous les réunifions aux parents. S'il y a un enfant dont les droits sont piétinés, par exemple la maltraitance, non-éducation de l'enfant, même privation de nourriture, les enfants qui ont commis des péchés ou des fautes, les parents se résolvent de ne pas scolariser l'enfant, ça ce ne sont pas des genres de punitions qu'il faut donner aux enfants. Notre journée d'aujourd'hui est de sensibiliser les enfants pour réclamer les droits et aussi sensibiliser les parents pour reconnaître les droits des enfants. Et au même moment, nous sensibilisons encore les enfants pour qu'ils puissent aussi bien exécuter leurs tâches, leurs devoirs, pour que les parents se sentent à l'aise quand ils répondent aux besoins des enfants.
Peut-être un message pour clôturer. Vous avez un projet avec UNICEF, mais aussi avec la MONUSCO.
Affirmatif, nous avons un projet avec UNICEF. Nous cherchons les enfants qui se sont égarés. Nous les réunifions. Nous faisons aussi la réintégration socio-professionnelle et la scolarisation. Avec MONUSCO, nous aidons les enfants qui ont quitté les groupes armés et aussi on profite pour les réintégrer dans la société. Et il y a aussi la partie apprentissage des métiers.
Monsieur Jean-Marie Ndegoura, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était avec Bernard Denyangi. 16h20, si vous écoutez Radio Okapi à Goma Nord qui vous parle, ici s'achève ces Radio Journal, coordonné par Élisée Chikota, sous la supervision éditoriale de Martin Seboujangwe. Mimi Kindoua assurait la mise en onde et grâce à Mzati était à la présentation. Merci.